Chapitre 6. Je voudrais, oh oui, je voudrais ne pas poursuivre ce récit, m'arrêter là. Ah, je le voudrais. À la pensée que je vais révéler tant de honte, le courage m'abandonne, le rouge me monte au front. Une lâcheté me prend tout à coup, qui fait trembler ma plume entre mes doigts. Et je me suis demandé grâce à moi-même. Hélas, je dois gravir jusqu'au bout le chemin douloureux de ce calvaire, même si ma chair y reste accrochée en lambeaux saignants, même si mes nerfs vifs éclatent sur les cailloux et sur les rocs. Des fautes comme les miennes, que je ne tente pas d'expliquer par l'influence des fatalités ataviques et par les pernicieux efforts d'une éducation si contraire à ma nature, ont besoin d'une expiation terrible, et cette expiation que j'ai choisie, elle est dans la confession publique de ma vie. Je me dis que les cœurs nobles et bons me sauront gré de mon humiliation volontaire. Je me dis aussi que mon exemple servira de leçon. Si en lisant ces pages, un jeune homme, un seul, prêt à faillir, se sentait tant d'effroi et tant de dégoût, qu'il fût à jamais sauvé du mal, il me semble que le salut de cette âme commencerait le rachat de la mienne. Et puis j'espère, quoique je ne croie plus en Dieu, j'espère qu'au fond de ces asiles de paix, où dans le silence des nuits rédemptrices, monte vers le ciel le chant triste et consolateur de ceux-là qui prient pour les morts, j'espère que j'aurai ma part des pitiés et des pardons chrétiens. Je possédais 22 000 francs de rente. De plus, j'étais convaincu qu'en travaillant, je pouvais gagner dans la littérature une somme égale au moins. Plus rien ne me paraissait difficile. La route était tracée devant moi, sans un obstacle, et je n'avais plus qu'à marcher. Oh, mes timidités, mes terreurs, mes doutes, le travail, le temps, l'angoisse, il n'en était plus question. Un roman, deux romans par an, de pièces de théâtre même. Qu'était-ce, je vous prie, pour un homme amoureux comme moi? Ne dit-on pas que X et que Z, des imbéciles irréparables et notoires, avaient fait en quelques années des fortunes énormes? Des idées de romans, de comédies, de drames venaient en foule, et je les indiquais d'un geste large et hautain. Je me voyais déjà accaparant tous les libraires, tous les théâtres, tous les journaux, l'attention universelle. Aux heures d'inspiration pénible, je regarderais Juliette, les chaînes revenaient très de ses yeux, ainsi que les royaumes d'une féerie. Je n'hésitais pas à exiger le départ de Malter et à me charger de l'existence de Juliette. Malter écrivit des lettres désespérées, pria, menaça, et finalement il partit. Plus tard, Gesselin, avec le bon goût et l'esprit qu'il avait, nous raconta que Malter, bien triste, voyageait en Italie. « Je l'ai accompagné jusqu'à Marseille, nous dit-il. Il voulait se tuer, il pleurait tout le temps. Vous savez, je ne suis pas un gobeur, moi, mais vraiment, il me faisait de la peine. Non, là, vrai !» Il ajouta, vous savez, il était résolu à se battre avec vous. C'est son ami, M. Lira, qui l'en a empêché. Moi aussi, du reste, parce que je ne comprends pas que les duels à mort. Juliette écoutait ces détails, silencieuse, d'un air apparence indifférent. Elle passait de temps en temps sa langue sur sa bouche. Il y avait dans ses yeux comme le reflet d'une joie intérieure. Pensait-elle à Malter? Était-elle heureuse d'apprendre que quelqu'un souffrit à cause d'elle? Et là, je n'ai déjà plus en état de me poser ces points d'interrogation. Une nouvelle vie commença. Le quartier où demeurait Juliette ne me plaisait pas. Il y avait dans sa maison des voisinages qui m'étaient pénibles, et puis surtout, l'appartement renfermait des souvenirs qu'il me convenait d'effacer. Dans la crainte que ces combinaisons n'agréassent point à Juliette, je n'osais les lui dévoiler trop brusquement, mais au premier mot que j'en dis, elle exulta. Oui, s'écria-t-elle joyeuse. J'y avais songé, mon chéri, et puis sais-tu à qui j'ai songé encore? Dis-le vite, à quoi ta petite femme a songé? Elle appuya ses deux mains sur mes épaules et souriante. Tu ne sais pas, vrai, tu ne sais pas? Eh bien, elle a songé que tu viendrais habiter avec elle. Oh, ce serait si gentil, un joli petit appartement, où nous serions tous deux bien seuls, à nous aimer, dis mon Jean. Toi, tu travaillerais, et moi, pendant ce temps-là, près de toi, sans bouger, je ferais de la tapisserie, et de temps en temps, je t'embrasserai pour te donner de belles idées. Oh, tu verras, mon chéri, si je suis une bonne femme de ménage, si je soignerai bien toutes tes petites affaires. D'abord, c'est moi qui rangerai ton bureau. Tous les matins, tu y trouveras une fleur nouvelle. Et puis, Spi aura aussi une belle niche. Pas mon Spi. Une belle niche, toute neuve, avec des pompons rouges. Et puis, nous ne sortirons pas, presque jamais. Et puis, nous coucherons de bonne heure. Et puis, oh, comme ça sera bon. Et redevenant sérieuse, elle dit d'une voix plus grave, et sans compter que ce sera bien cher, moins cher, la moitié moins cher, juste. Nous arrêtâmes un appartement rue de Balzac, et il fallut nous occuper de l'aménager. Ce fut une grosse affaire. Toute la journée, nous courions les marchands, examinant des tapis, choisissant des tentures, discutant des projets et des devis. Juliette eût voulu acheter tout ce qu'elle voyait, mais elle allait de préférence aux meubles compliqués, aux étoffes éclatantes, aux broderies massives. L'éclaboussement de l'or neuf, le papillotage des tons heurtés, l'attiraient et la retenaient charmée. Et si je tentais de lui adresser une observation, elle répondait aussitôt: mais est-ce que les hommes connaissent ces choses-là? Les femmes, ça c'est bien mieux. Elle s'entêta dans le désir de posséder une sorte de bahut arabe, effroyablement peinturluré, incrusté de nacre, d'ivoire, de pierres fausses et qui était immense. Oh, tu vois bien qu'il est trop grand, qu'il ne pourrait pas entrer chez nous, lui disais-je. Tu crois, mais en lui sciant les pieds, mon chéri. Et plus de 20 fois par jour, elle s'interrompait dans une conversation pour me demander: alors, tu crois vraiment qu'il est trop grand, le beau bahut? Dans la voiture, en rentrant, Juliette se pressait contre moi, me tendait ses lèvres, me couvrait de caresses heureuses, rayonnantes. Ah, le vilain qui ne disait rien, qui restait à me regarder, toujours avec ses beaux yeux tristes. Oui, vos beaux yeux tristes que j'aime, vilain. Il a fallu que ce soit moi, pourtant. Oh, jamais tu n'aurais osé, toi. Je te faisais peur, pas. Tu te rappelles quand tu m'as prise dans tes bras le soir? Je ne savais plus où j'étais. Je ne voyais plus rien. J'avais la gorge, la poitrine. C'est drôle, quand on a bu quelque chose de trop chaud. J'ai cru que j'allais mourir brûlé, brûlé de toi. C'était si bon, si bon. D'abord, je t'ai aimé dès le premier jour. Non, non, je t'aimais avant. Ah, tu ris. Tu ne crois pas qu'on puisse aimer quelqu'un sans le connaître et sans l'avoir vu? Moi, je crois que si, moi j'en suis sûr. J'avais le cœur si gonflé, et ces choses étaient si nouvelles pour moi, que je ne trouvais pas une parole, j'étouffais dans la joie. Je ne pouvais qu'étreindre Juliette, balbutier des mots inachevés, pleurer, pleurer délicieusement. Soudain, elle devenait toute songeuse, le pli de son front s'accentuait, elle retirait sa main de la mienne. Je craignis de l'avoir froissée. Qu'as-tu, ma Juliette? Lui demandai-je. Mais pourquoi es-tu comme ça? T'ai-je fait de la peine? Et Juliette, désolée, navrée, gémissait. Mais l'encoignure, mon chéri, l'encoignure du salon que nous avons oublié. Et elle passait d'un rire, d'un baiser, à une gravité subite, mêlait les tendresses et les menaces à mesure des plafonds, embrouillait la bourre avec la tapisserie. Oh, c'était adorable. Dans notre chambre, le soir, tous ces jolis enfantillages disparaissaient. L'amour mettait sur le visage de Juliette je ne sais quoi d'austère, de recueilli et de farouche aussi. Oh, il la transfigurait. Elle n'était pas dépravée. Sa passion, au contraire, se montrait robuste et saine, et dans ses embrassements, elle avait la noblesse terrible, l'héroïsme rugissant des grands fauves. Son ventre vibrait comme pour des maternités redoutables. Et mon bonheur dura peu, mon bonheur. C'est une chose extraordinaire en vérité que jamais, jamais je n'ai pu jouir d'une joie complètement, et qu'il ait fallu que l'inquiétude en vint toujours troubler les courtes ivresses. Désarmé et sans force contre la souffrance, incertain et peureux dans le bonheur, tel j'ai été durant toute ma vie. Est-ce une tendance particulière de mon esprit, une perversion étrange de mes sens, ou bien le bonheur ment-il réellement à tout le monde comme à moi, et n'est-il qu'une forme plus persécutrice et raffinée de la souffrance universelle? Tenez, les lueurs de la veilleuse tremblotent légèrement sur les rideaux et sur les meubles. Et Juliette, au matin, s'est endormie. Au matin de notre première nuit, un de ses bras repose nu sur le drap, l'autre, nu aussi, se replie mollement sous sa nuque. Tout autour de son visage qui reflète les pâleurs du lit, de son visage meurtri aux yeux d'un grand cercle d'ombre, ses cheveux noirs, dénoués, s'éparpillent, ondulent, roulent, et avidement je la contemple. Elle dort près de moi, d'un sommeil calme et profond d'enfant. Et pour la première fois, la possession ne me laisse aucun regret, aucun dégoût. Pour la première fois, je puis, le cœur attendri et reconnaissant, la chair encore vibrante de désir, regarder une femme qui vient de se donner à moi. Exprimer mes sensations, je ne le saurais. Ce que j'éprouve, c'est quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de très doux, de très grave aussi, et de très religieux, une sorte d'extase eucharistique, semblable à celle où me revit ma première communion. Je retrouve le même mystique enivrement, la même terreur auguste et sacrée. C'est dans une éblouissante clarté de mon âme, une seconde révélation de Dieu. Il me semble que Dieu est descendu en moi pour la deuxième fois. Elle dort dans le silence de la chambre, la bouche à demi entrouverte, la narine immobile. Elle dort d'un sommeil si léger que je n'entends pas le souffle de sa respiration. Une fleur sur la cheminée est là, qui se fane, et je perçois le soupir de son parfum mourant. De Juliette, je n'entends rien. Elle dort, elle respire, elle est vivante, et je n'entends rien. Doucement, plus près, je me penche, l'effleurant presse de mes lèvres, et tout bas, je l'appelle « Juliette ». Juliette ne bouge pas. Mais je sens son haleine plus faible que l'haleine de la fleur, son haleine toujours si fraîche où se mêle en ce moment comme une petite chaleur fade, son haleine toujours si odorante où pointe comme une imperceptible odeur de pourriture. Juliette. Juliette ne bouge pas. Mais le drap, qui suit les ondulations du corps, moule les jambes, se redresse aux pieds en un pli rigide. Le drap me fait l'effet d'un linceul. Et l'idée de la mort, tout d'un coup, m'entre dans l'esprit, s'y obstine. J'ai peur, oui, j'ai peur que Juliette ne soit morte. Juliette. Juliette ne bouge pas. Alors, tout mon être s'abîme dans un vertige et tandis que mes oreilles résonnent des glas lointains, autour du lit, je vois les lumières de 1000 cierges funéraires vaciller sous le vent des deux profondices. Mes cheveux se hérissent, mes dents claquent, et je crie. Juliette, Juliette! Juliette enfin remue la tête, pousse un soupir, murmure comme en rêve, « Jean, mon Jean !» Vigoureusement, dans mes bras, je la saisis comme pour la défendre, je l'attire contre moi et, tremblant, glacé, je supplie. « Juliette, ma Juliette, ne dors pas. Oh, je t'en prie, ne dors pas. Tu me fais peur. Montre-moi tes yeux et parle-moi, parle-moi. Et puis serre-moi, toi aussi, serre-moi bien, bien fort. Mais ne dors plus, je t'en conjure. » Elle se pelotonne dans mes bras, chuchote des mots inintelligibles, se rendort, la tête sur mon épaule. Mais l'évocation de la mort, plus puissante que la révélation de l'amour, persiste. Et bien que j'écoute le cœur de Juliette qui bat contre le mien régulièrement, elle ne s'évanouit qu'au jour. Que de fois, depuis, dans ses baisers de flamme, à elle, j'ai ressenti le baiser froid de la mort. Que de fois aussi, en pleine extase, m'est apparue la soudaine et cabriolante image du chanteur des bouffes. Que de fois son rire obscène est-il venu couvrir les paroles ardentes de Juliette. Que de fois l'ai-je entendu qui me disait, en balançant au-dessus de moi sa face horrible et ricanante, « Repais-toi de ce corps, imbécile, de ce corps souillé, profané par moi. Va, va, ou que tu poses tes lèvres, tu respireras l'odeur impure de mes lèvres, ou que les caresses s'égarent sur cette chair prostituée, elles se heurteront aux ordures des miennes. Allez, va, va, baigne-la, ta Juliette, baigne-la toute dans l'eau lustrale de ton amour. Frotte-la, l'acide de ta bouche. Arrache-lui la peau avec les dents, si tu veux. Ah, tu n'effaceras rien jamais, car l'empreinte d'infamie dont je la marquais est ineffaçable. » Et j'avais une envie violente d'interroger Juliette sur ce chanteur dont l'image m'obsédait, mais je n'osais pas. Je me contentais de prendre des détours ingénieux pour savoir la vérité. Souvent, dans la conversation, je jetais un nom. Subitement, espérant que Juliette aurait un petit sursaut, une rougeur, se troublerait, que je me dirais « c'est lui ». J'épuisais ainsi les noms de tous les chanteurs, de tous les théâtres, sans que l'impénétrable attitude de Juliette me donnât la moindre indication. Quant à Malter, je ne songeais plus à lui. Notre installation dura 4 mois à peu près. Les tapissiers n'en finissaient pas et les caprices de Juliette nécessitaient souvent des changements très longs. Elle revenait de ses courses quotidiennes avec des idées nouvelles pour la décoration du salon, du cabinet de toilette. Il fallut refaire 3 fois entièrement les tentures de la chambre qui ne lui pesaient plus. Enfin, un beau jour, nous prîmes possession de l'appartement de la rue de Balzac. Il était temps. Cette existence, toujours en l'air, cette fièvre continue, ces malles ouvertes, béantes ainsi que des cercueils, cet éparpillement brutal des choses familières, ces piles de linge croulant, ces pyramides de carton que l'on renverse, ces bouts de ficelle coupés qui traînent partout, ce désordre, ce pillage, ce piétinement sauvage des souvenirs les plus chers, les plus regrettés, et surtout, ce qu'un départ contient d'inconnu, de terreur, dégage de réflexions tristes, tout cela me ramenait à des inquiétudes, à des mélancolies, et, le dirais-je, à des remords. Pendant que Juliette tournait, volait au milieu des paquets, je me demandais si je n'avais pas commis une irréparable folie. Je l'aimais, ah, certes, je l'aimais de toutes mes forces, de mon âme. Je ne concevais rien au-delà de cet amour qui m'envahissait chaque jour davantage, me prenait dans les fibres inconnues de moi jusqu'ici. Pourtant, je me repentais d'avoir cédé avec tant de légèreté et si vite à un entraînement gros de conséquences fâcheuses, peut-être pour elle et pour moi. J'étais mécontent de n'avoir pas su résister au désir qu'avait exprimé Juliette d'une si caressante façon de cette vie en commun. N'aurions-nous pas pu nous aimer, aussi bien elle chez elle, moi chez moi, éviter les froissements possibles de cette situation qu'on appelle d'un mot ignoble le collage? Et tandis que l'éclat de toutes ces peluches, l'insolence de tous ces ors dans lesquels nous allions vivre m'effrayait, j'éprouvais pour mes pauvres meubles de pitch-pain dispersés, pour mon petit appartement austère et tranquille, aujourd'hui vide, la tendresse douloureuse qu'on a pour les choses aimées et qui sont mortes. Mais Juliette passait, affairée, agile et charmante, m'embrassait au vol d'un baiser doux, et puis il y avait en elle une joie si vive, traversée d'étonnement, de désespoir si naïf, à propos d'un objet qu'elle ne retrouvait pas, que mes pensées moroses s'en allaient comme au premier rayon du soleil s'en vont les nocturnes hiboux. Ah, les bonnes journées qui suivirent le départ de la rue Saint-Pétersbourg! Il fallut d'abord tout de suite visiter chaque pièce en détail. Juliette s'asseyait sur les divans, les fauteuils et les canapés, en faisant craquer les ressorts qui étaient souples et moelleux. « Toi aussi, disait-elle, essaie, mon chéri. » Elle examinait chaque meuble, palpait les tentures, faisait jouer les cordons de tirage des portières, déplaçait une chaise, rectifiait le pli d'une étoffe. Et c'était à tous les moments des cris d'admiration, des extases. Elle voulut recommencer l'examen de l'appartement, les fenêtres closes afin de se rendre compte de l'effet aux lumières, ne cessant jamais de regarder le même objet, courant d'une pièce dans l'autre, notant sur un bout de papier les choses qui manquaient. Ensuite, ce furent les armoires où elle rangea son linge, le mien avec un soin méticuleux, des raffinements compliqués, l'adresse d'une étalagiste consommée. Je la grondais parce qu'elle gardait les meilleurs sachets pour moi. Non, 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 oh, je veux avoir un petit homme qui embaume. De ses anciens meubles, de ses bibelots, Juliette n'avait conservé que l'amour en terre cuite, qui reprit sa place d'honneur sur la cheminée du salon. Moi, je n'avais apporté que mes livres et deux très belles études de l'IRA que je m'étais mis en devoir d'accrocher dans mon bureau. Juliette poussa des cris scandalisés. « Mais que fais-tu là, mon chéri ? Des horreurs pareilles dans un appartement tout neuf ? Oh non, je t'en prie, cache ces horreurs-là, oh, cache-les » « Mais ma chère Juliette, répondis-je un peu piqué, tu as bien ton amour en terre cuite, toi ?» Oui, sans doute, j'ai mon amour en terre cuite. Mais quel rapport ça a-t-il? Il est très très joli, mon amour en terre cuite. Tandis que ça, vraiment, eh bien, ça n'est pas convenable. D'abord, moi, à chaque fois que je regarde de la peinture de ce fou de l'Ira, ça me donne mal à l'estomac. J'avais autrefois la fierté de mes admirations artistiques, et je les défendais jusqu'à la colère. Mais cela m'eût paru très puéril d'engager avec Juliette une discussion d'art, et je me contentais d'enfouir les deux tableaux au fond d'un placard sans trop de regrets. Il arriva un jour que tout se trouva dans un ordre admirable. Chaque chose à sa place, les menus objets coquettement disposés sur les tables, les consoles, les vitrines, les pièces décorées de plantes aux larges feuilles, les livres dans la liseuse à portée de la main, et Spie dans sa riche niche neuve et partout des fleurs. Rien ne manquait, rien, pas même sur ma table de travail, une rose dont la tige baignait en un vase de verre effilé. Et Juliette rayonnait, triomphait, ne cessait de me dire: Regarde, regarde encore comme ta petite femme a bien travaillé. Il penchant la tête sur mon épaule, les yeux attendris, la voix émue sincèrement, elle murmura: Oh mon Jean adoré, nous sommes chez nous maintenant, chez nous, tu entends bien, comme nous allons être heureux là dans notre joli nid. Le lendemain, Juliette me dit: Il y a bien longtemps que tu n'es allée chez Monsieur Lira. Je ne voudrais pas qu'il pût croire que c'est moi qui t'ai empêché de le voir. C'est vrai, pourtant. Depuis plus de 5 mois, je l'oubliais, ce pauvre Lira. L'oubliais, oh, là, ce nom. Mais la honte me retenait. La honte seule m'éloignait de lui. J'aurais, je vous assure, crié à la terre tout entière: Je suis l'amant de Juliette. Mais prononcer ce nom devant Lyra, je n'osais pas. D'abord, j'avais pensé à lui tout confier, au risque de ce qu'il en résulterait de fâcheux pour notre amitié. Je m'étais dit: Bah, voyons, demain, j'irai chez Lyra. Je m'affermissais même dans cette résolution. Et le lendemain, oh non, pas encore, rien ne presse, demain. Demain, toujours demain. Et les jours, les semaines, les mois s'écoulaient. Demain. Maintenant qu'il aurait été tenu au courant de ces choses par Malter, qui avant de partir était revenu faire gémir son divan, comment l'aborder? Que lui dire? Comment supporter son regard, ses mépris, ses colères? Oh, ses colères, oui. Mais ses mépris, mais ses silences terribles, mais le ricanement déconcertant que je voyais déjà se tordre au coin de ses lèvres. Non, en vérité, je n'osais pas. L'attendrir, lui prendre la main, lui demander pardon de mon manque de confiance, faire appel à toutes les générosités de mon cœur, non, 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 je jouerais mal ce rôle. Et puis d'un mot, Lyra me glacerait, arrêterait l'effusion. Eh bien, chaque jour qui fuyait nous séparait davantage, nous mettait plus loin l'un de l'autre. Quelques mois encore, il ne serait plus question d'une Lyra dans ma vie. J'aimerais mieux que cela, que de franchir ce seuil, que d'affronter ses yeux. Alors je répondis à Juliette: Lyra, oh oui, un de ces jours, j'y pense. Non, non, insista Juliette, c'est aujourd'hui. Tu le connais, tu sais comme il est méchant. Oh, il doit en fabriquer des potins sur nous. Il fallut bien me décider. De la rue de Balzac à la cité Rodrigue, le trajet est court. Afin de reculer le moment de cette entrevue pénible, je fis de longs détours, flânant aux étalages du faubourg Saint-Honoré. Et je songeais: Si je n'allais pas chez Lyra, je dirais en rentrant que je l'ai vue, que nous nous sommes fâchés, j'inventerais une histoire qui me sauverait à tout jamais de cette visite. J'eus honte de cette pensée gamine. Alors j'espérais que Lyra ne serait pas chez lui. Avec quelle joie je roulerais ma carte et la glisserais dans le trou de la serrure. Réconforté par cette idée, je m'engageai enfin dans la cité Rodrigue, m'arrêtai devant la porte de l'atelier. Cette porte me parut effrayante. Néanmoins, je frappai, et aussitôt de l'intérieur, une voix à la voix de Lyra répondit: Entrez! Mon cœur battait, une barre de feu me traversait la gorge. Oh, je voulus m'enfuir. Entrez! Répéta la voix. Je tournai le bouton. Oh, c'est vous, Mathieu! S'écria Lyra. Entrez donc! Lyra, assis devant sa table, écrivait une lettre. Vous permettez que j'achève, me dit-il. 2 minutes et je suis à vous. Il se remit à écrire. Cela me rassurait un peu de ne pas sentir sur moi le froid de son regard. Je profitais de ce qu'il me tournait le dos pour parler, pour me soulager vite du fardeau qui me pressait l'âme. Comme il y a longtemps que je ne vous ai vu, mon bon Lyra. Mais oui, mon cher Mathieu. Oui, j'ai déménagé. Hein? J'habite rue de Balzac. Oh, beau quartier! J'étranglais. Je fis un suprême effort, rassemblai toutes mes forces. Mais par une étrange aberration, je crus devoir prendre une tournure dégagée. Ma parole d'honneur, je raillais, oui, je raillais. Je vais vous apprendre une nouvelle qui vous amusera. Qui vous amusera, j'en suis sûr. Je vis avec Juliette. Ah, ah oui, avec Juliette Roux. Juliette, enfin. Mes compliments. Mes compliments. Il avait prononcé cela, mes compliments, d'une voix parfaitement calme, indifférente. Comment ? Pas un sifflement, pas une colère, pas un bondissement. Mes compliments. Comme il aurait dit, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Et son dos, courbé vers la table, demeurait immobile, sans un ressaut, sans un frisson. Sa plume ne lui était pas tombée des doigts, il continuait d'écrire. Ce que je lui apprenais là, il le savait depuis longtemps, mais l'entendre de ma bouche, j'étais stupéfait et, dois-je l'avouer, froissé que cela ne l'indigna pas. Lyra se leva et, se frottant les mains, « Eh bien, quoi de nouveau ?» me dit-il. Oh, je n'y puis tenir davantage. Je me précipitai vers lui, les larmes aux yeux. « Écoutez-moi » criai-je en sanglotant. « Lyra, par grâce, écoutez-moi. J'ai mal agi envers vous, je le sais, et je vous en demande pardon. J'aurais dû tout vous dire. Je n'ai pas osé, vous me faites peur. » Et puis vous vous souvenez de Juliette ici, de ce que vous m'avez raconté d'elle. Vous vous souvenez, c'est cela qui m'en a empêché, comprenez-vous. Mais, mon cher Mathieu, interrompit Lyra, je vous en veux pas du tout. Je suis ni votre père ni votre confesseur. Vous faites ce qui vous plaît, et cela ne me regarde en rien. Je m'exaltais. « Oui, vous n'êtes pas mon père, c'est vrai, mais vous êtes mon ami, mon seul ami. Je vous devais plus de confiance, pardonnez-moi. »« Oui, je vis avec Juliette et je l'aime et elle m'aime. »« N'est-ce donc un crime que de chercher un peu de bonheur ?»« Juliette n'est pas la femme que vous pensez, on l'a odieusement calomniée. »« Elle est bonne, honnête. » « Oh non, non, je riais pas. Oui, honnête. »« Elle a des naïvetés d'enfant qui vous attendriraient, Lyra. »« Vous ne l'aimez point parce que vous ne la connaissez pas. »« Si vous saviez toutes les gentillesses, toutes les prévenances de brave femme qu'elle a pour moi. »« Juliette veut que je travaille. Elle a la fierté de ce que je pourrais créer de bon. »« Tenez, c'est elle qui m'a forcé à venir vous voir. » Moi, j'avais honte, je n'osais pas. C'est elle, oui, Lyra, ayez un peu pitié d'elle. Aimez-la un peu, je vous en supplie. Lyra était devenue grave. Il mit sa main sur mon épaule et me regardant tristement. « Mon pauvre enfant !» me dit-il d'une voix émue. « Mais pourquoi me dites-vous tout cela ?»« Mais parce que c'est la vérité, mon cher Lyra. » Parce que je vous aime et que je veux rester votre ami. Prouvez-moi que vous êtes toujours mon ami. Tenez, venez dîner ce soir chez nous, comme autrefois chez moi. Je vous en prie, venez. Non, fit-il. Et ce non était impitoyable, définitif, bref ainsi qu'un coup de pistolet. Lyra ajouta. Venez-vous souvent, et quand vous aurez envie de pleurer, vous savez, le divan est là. Les larmes des pauvres diables, ça le connaît. Lorsque la porte se referma, Il me sembla que quelque chose d'énorme et de lourd se refermait avec elle sur mon passé, que des murs plus hauts que le ciel et plus profonds que la nuit me séparaient pour toujours de ma vie honnête, de mes rêves d'artiste. Et j'éprouvais dans tout mon être comme un déchirement. Pendant une minute, je demeurais là, hébété, les bras ballants, les yeux ouverts démesurément sur cette porte fatidique derrière laquelle une chose venait de finir, une chose venait de mourir. Juliette ne tarda pas à s'ennuyer dans ce bel appartement où elle s'était promis tant de calme, tant de bonheur. Ses armoires rangées, ses petits bibelots mis en ordre, elle ne sut que faire et elle s'étonna. La tapisserie l'agaça, la lecture ne lui procura aucune distraction. Elle allait d'une pièce à l'autre, sans savoir à quoi s'occuper ses mains, son esprit bâillant, s'étirant les bras. Elle se réfugiait en son cabinet de toilette, où elle passait de longues heures à s'habiller, à essayer des coiffures nouvelles devant sa glace, à faire jouer les robinets de la baignoire, ce qui l'amusait un instant, à épucer Spi et à lui fabriquer des nœuds compliqués avec les vieilles brides de ses chapeaux. La direction de sa maison eût pu remplir le vide de ses journées, mais je m'aperçus vite, avec chagrin, que Juliette n'était pas la femme de ménage qu'elle se vantait d'être. Elle ne prenait de soin, n'avait de goût, n'exerçait de surveillance que pour sa lingerie de corps et pour son chien. Oh, le reste lui importait peu. Et les choses allaient comme elle voulait, ou plutôt comme voulaient les domestiques. Notre personnel renouvelé se composait d'une cuisinière, vieille fille sale, avide, grincheuse, dont les talents en cuisine ne s'étendaient pas au-delà du tapioca, de la blanquette de veau ou de la salade, d'une femme de chambre, Célestine, effrontée, vicieuse, qui n'avait d'estime que pour les gens qui dépensaient beaucoup d'argent, enfin d'une femme de charge, la mère Sochard, qui prisait sans cesse, se saoulait effroyablement, afin d'oublier ses malheurs, disait-elle, son mari qui la battait et la grugeait, sa fille qui avait mal tourné. Aussi le gaspillage était-il énorme, notre table très mauvaise et le reste à l'avenant. Si par hasard nous avions du monde, Juliette commandait chez Bignon des plats très chers et très prétentieux. Je vis avec déplaisance des familiarités inconvenantes, une sorte de liaison amicale s'établir entre Juliette et Célestine. Quand elle habillait sa maîtresse, elle lui contait des histoires dont celle-ci se réjouissait, dévoilait les intimités malpropres des maisons où elle avait passé, donnait des conseils. « Oh, chez Madame K, on faisait comme ci, chez Madame V, comme ça. » Aussi, c'était des chouettes places, on peut le dire. Souvent, Juliette se rendait à la lingerie où Célestine cousait, et elle restait là, des heures entières, assise sur une pile de draps, à écouter les inépuisables potins de la bonne. De temps en temps, des discussions s'élevaient à propos d'un objet dérobé, d'un manquement au service. Célestine s'emportait, lançait les plus grossières injures, tapait les meubles, glapissait de sa voix esquintée. « Ah bon, merci, en voilà une sale baraque, des grues pareilles, ça se permet de vous accuser ? Eh, tu sais, ma petite, je me fiche de toi, et puis de ton nigo là-bas, qu'a l'air d'un hamelon. » Juliette la renvoyait, ne voulait même pas qu'elle fît ses 8 jours. « Oui, oui, tout de suite, vos paquets, vilaine fille, tout de suite !» Elle venait de flottir près de moi, pâle et pâle. « Ah, mon chéri, l'indigne créature, la vilaine fille, moi qui étais si gentille pour elle !» Et le soir, tout était raccommodé. Et par-dessus les rires qui recommençaient de plus belle, la voix de Célestine braillait. Bien sûr que c'était une rude salope que Madame la Comtesse. Oh, la salope! Un jour, Juliette me dit, ta petite femme n'a plus rien à se mettre. Elle est nue comme un ver, la pauvre. Alors, ce furent des courses nouvelles chez la couturière, la modiste, la lingère, et elle redevint gaie, vive, plus aimante. L'ombre d'ennui qui avait assombri son visage se dissipa. Au milieu des étoffes, des dentelles, parmi les plumes et les fanfreluches, elle se trouvait vraiment dans son élément, s'épanouissait, resplendissait. Ses doigts passionnés prouvaient les jouissances physiques à courir sur les satins, à toucher les crêpes, à caresser les velours, à se perdre dans les flots laiteux des fines batistes. Le moindre bout de soie, la façon dont elle le chiffonnait, revêtait aussitôt un joli air de choses vivantes, des soutaches et des passementeries, elle savait tirer les plus exquises musiques. Quoique je fusse très inquiet de toutes ces fantaisies ruineuses, je ne pouvais rien refuser à Juliette, et je me laissais aller au bonheur de la savoir si heureuse, au charme de la voir si charmante, elle dont la beauté embellissait les objets inertes autour d'elle, elle qui animait tout ce qu'elle couchait d'une vie de grâce. Pendant plus d'un mois, tous les soirs, on apporta chez nous des paquets, des cartons, des gaines étranges. Et les robes succédaient aux robes, les chapeaux, manteaux. Les ombrelles, les chemises brodées, les plus extravagantes lingeries s'entassaient, s'amoncelaient, débordaient des tiroirs, des placards, des armoires. « Tu comprends, mon chéri, m'expliquait Juliette, surprenant dans mes regards un étonnement. Tu comprends, je n'avais plus rien. Ça, c'est un fond. Je n'aurai maintenant qu'à l'entretenir. Oh, ne crains rien, va, je suis très économe. » Ainsi, regarde, j'ai fait faire à toutes mes robes un corsage montant pour la ville et puis un corsage décolleté pour quand nous irons à l'opéra. Compte ce que cela m'économise de costumes. 1, 2, 3, 4, 5 costumes, mon chéri. Tu vois bien. Elle étrenna au théâtre une robe qui fit sensation. Tant que dura cette mortelle soirée, je fus le plus malheureux des hommes. Je sentais les convoitises de ses regards de toute une salle braquée sur Juliette, de ses regards qui la dévisageaient, qui la déshabillaient, de ces regards qui laissent tomber tant d'ordures autour de la femme qu'on admire. J'aurais voulu cacher Juliette au fond de la loge et jeter sur elle un voile de laine sombre et grossière. Et le cœur mordu par la haine, je souhaitais que le théâtre, tout à coup, s'effondrât dans un cataclysme, qu'il broyât d'une chute formidable de son lustre, de son plafond, tous ces hommes qui me volaient chacun un peu de la pudeur de Juliette, qui m'emportaient chacun un peu de son amour. Et elle, triomphante, semblait dire « Je vous aime bien, messieurs, de me trouver belle ainsi, et vous êtes de braves gens. » À peine rentré chez nous, j'attirai Juliette contre moi, et longtemps, longtemps, je la tins pressée sur mon cœur, répétant sans cesse « Mais tu m'aimes bien, ma Juliette ?» Mais déjà le cœur de Juliette ne m'entendait plus. Me voyant triste, apercevant au bord de mes cils des larmes près des accroulées sur sa joue, elle se dégagea de mes bras et, un peu fâchée, me dit « Comment, mais j'ai été la plus belle de toutes, et tu n'es pas content? Et tu pleures, mais c'est pas gentil. Mais qu'est-ce qu'il te faut, alors ?» Notre première fâcherie eut lieu à propos des amis de Juliette. Gabriel Bernier, Jocelyn et quelques autres personnages amenés par Malter, jadis au de Saint-Pétersbourg, revenait, sans que je n'en eusse prié, nous poursuivre rue Balzac. Et cela ne me convenait pas. J'entendais séparer ma maîtresse de tout son passé. Je le déclarai nettement à Juliette, qui parut d'abord très étonnée. « Mais qu'as-tu contre M. Jocelyn ?» me demanda-t-elle. Elle appelait les autres par leur petit nom. Mais elle disait « Monsieur Jocelyn » avec un grand respect. Oh, je n'ai rien contre lui, positivement, ma chérie. Il me déplaît, il m'agace, il est absurde. Voilà, je pense, de bonnes raisons pour ne point désirer voir cet imbécile. Juliette fut fort scandalisée. Que j'aie pu traiter d'imbécile un homme de l'importance et de la réputation de M. Gesselin, oh, cela ne lui entrait pas dans la tête. Elle me regardait avec effroi, comme si je venais de proférer un abominable blasphème. Imbécile, M. Gesselin? Lui, un homme si comme il faut, si sérieux, qui est allé dans les Indes, mais tu sais donc pas qu'il est de la Société de Géographie? Et Gabrielle Bernier, est-elle aussi de la Société de Géographie? Juliette ne s'emportait jamais. Seulement, quand elle se fâchait, ses yeux devenaient subitement plus durs, le pli de son front se creusait davantage, sa voix perdait un peu de sa douce sonorité. Elle répondit simplement: Gabriel est mon ami. C'est bien cela que je lui reproche. Il y eut un moment de silence. Juliette, assise dans un fauteuil, tortillait les dentelles de sa robe de chambre, réfléchissait. Un sourire ironique erra sur ses lèvres. Alors il faut que je ne voie personne. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Eh bien, ça va être amusant. Nous ne sortons jamais déjà, mais nous vivons comme de vrais loups. Mais il n'est point question de cela, ma chérie. J'ai des amis, je leur dirai de venir. Oui, je les connais, tes amis. Je les vois d'ici. Des littérateurs, des artistes, des gens qu'on ne comprend pas quand ils vous parlent et qui nous emprunteront de l'argent. Non, merci. Je fus blessé, répondit vivement. Mais mes amis sont d'honnêtes garçons, tu entends, et qui ont du talent. Tandis que ce crétin et cette sale fille. Assez, n'est-ce pas? Commanda Juliette. Tu veux? C'est bien, je leur fermerai ma porte. Seulement, quand tu as exigé de vivre avec moi, tu aurais bien dû me prévenir que tu voulais m'enferrer vivante. J'avais vu ce Et j'aurais vu ce que j'avais à faire. Elle se leva. Je ne pensais point lui dire que c'était elle, au contraire, qui avait désiré cette existence à deux, comprenant que ce serait aggraver la discussion inutilement. Je lui pris la main. Juliette, suppliai-je, eh bien quoi? Tu es fâchée? Moi, au contraire, je suis très contente. Juliette, allons, laisse-moi, finis, tu me fais mal. Juliette me bouda toute la journée. Lorsque je lui adressais la parole, elle ne me répondait pas ou se contentait d'articuler d'une voix brève des monosyllabes irritants. J'étais malheureux et colère. J'eusse voulu l'embrasser, la battre, la couvrir de baisers et de coups de poing. Au dîner, elle conserva une dignité de femme offensée, les lèvres pincées, du dédain plein les yeux. En vain, je tentais de l'attendrir par des allures humbles, des regards repentants et douloureux. Son masque demeurait impitoyable. Son front avait toujours cette barre d'ombre qui m'inquiétait. Le soir, couchée, elle prit un livre et me tourna le dos. Et sa nuque parfumée, où mes lèvres étaient à se pâmer, sa nuque me paraissait plus obstinée qu'un mur de pierre. De sourdes impatiences s'agitaient en moi et je m'efforçais de les dompter. À mesure que la colère m'envahissait, ma voix cherchait des intonations plus caressantes, se faisait plus douce, plus suppliante. Juliette, ma Juliette, parle-moi, je t'en prie, parle-moi. Je t'ai fait de la peine, j'ai été trop dur, c'est vrai. Je me repens, je te demande pardon, mais parle-moi. On eût dit que Juliette ne m'entendait pas. Elle coupait les feuilles de son livre, et le sifflement du couteau sur le papier m'agaçait horriblement. Ma Juliette, mais comprends-moi. C'est parce que je t'aime que je t'ai dit cela. C'est parce que je te veux si pur, si respecté. Et il me semble que ces gens sont indignes de toi. Si je ne t'aimais pas, que m'importerait? Et puis tu crois que je ne veux pas que tu sortes? Mais non! Nous sortirons souvent tous les soirs. Ah, ne sois pas ainsi. Oh, j'ai eu tort. Gronde-moi, bats-moi. Mais parle, parle donc. Elle continuait de tourner les pages du livre. Les mots s'étranglaient dans ma gorge. Mais c'est mal, Juliette, ce que tu fais là. Je t'assure que c'est mal d'être comme tu es, puisque je me repens. Mais à quel plaisir éprouves-tu donc à me torturer de la sorte, puisque je me repens? Voyons, Juliette, puisque je me repens. Aucun muscle de son corps ne tressaillait à mes prières. Sa nuque surtout m'exaspérait. Entre des mèches de cheveux follets, j'y voyais maintenant une tête de bête ironique, des yeux qui me raillaient, une bouche qui me tirait la langue. Et j'eus la tentation d'y porter la main, de la labourer avec mes doigts, d'en faire jaillir du sang. « Mais Juliette ! » criai-je. Et mes doigts, crispés, écartés, crochus comme des serres, s'avançaient malgré moi, prêts à s'abattre sur cette nuque impatient de la déchirer. « Juliette !» Juliette retourna légèrement la tête, me regarda avec mépris, sans terreur. « Mais que veux-tu ? » me dit-elle. « Mais ce que je veux, ce que je veux !» J'allais proférer des menaces. Je m'étais levé à demi hors des draps, je gesticulais. Et tout à coup, ma colère tomba. Je me rapprochai de Juliette, me blottis contre elle, tout honteux, et baisant cette belle nuque parfumée. « Mais ce que je veux, ma chérie, c'est que tu sois heureuse, que tu reçoives tes amis. Bon, c'était si bête ce que j'exigeais de toi. N'es-tu donc pas la meilleure des femmes? Ne m'aimes-tu pas? Non, non, je n'aurai plus d'autre volonté que la tienne, je te le promets. Et tu verras comme je serai gentil avec eux. Tiens, pourquoi n'inviterais-tu pas Gabriel à dîner? Et j'ai cela aussi. » Non, 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 non. Tu dis cela maintenant et demain tu me le reprocherais. Non, non, je ne veux pas t'imposer des gens que tu détestes. Des sales filles et des crétins. Bon, je ne sais où j'avais la tête. Je ne les déteste pas, au contraire. Ils me plaisent beaucoup. « Allez, invite-les tous les deux. J'irai prendre une loge au vaudeville. »« Non, je t'en conjure. » Sa voix se radoucit, elle ferma le livre. « Eh bien, nous verrons demain. » Sincèrement, à cette minute, j'aimais Gabriel, Jocelyn, Célestine. Oh, je crois même que j'aimais Malter. Je ne travaillais plus. Non que l'amour du travail m'eût abandonné, mais je n'avais plus la faculté créatrice. Tous les jours, je m'asseyais à mon bureau devant du papier blanc, cherchant des idées, n'en trouvant pas, et retombant fatalement dans les inquiétudes du présent, qui était Juliette, dans les effrois de l'avenir, qui était Juliette encore. De même qu'un ivrogne presse la bouteille tarie pour en exprimer une dernière goutte de liqueur, de même, je pressais mon cerveau dans l'espoir d'en faire gicler des gouttes d'idées. Hélas, mon cerveau était vide. Il était vide et il me pesait sur les épaules autant qu'une boule énorme de plomb. Mon intelligence avait toujours été lente à s'ébranler. Il lui fallait l'excitation, le cinglement du coup de fouet. En raison de ma sensibilité mal réglée et de ma passivité, je subissais facilement des influences intellectuelles et morales, bonnes ou mauvaises. Aussi, l'amitié de Lyra m'était-elle très utile autrefois. Mes idées se dégelaient à la chaleur de son esprit. Sa conversation m'ouvrait des horizons nouveaux, insoupçonnés. Ce qui grouillait en moi de confus se dégageait, prenait une forme moins indécise que je m'efforçais de transcrire. Il m'habituait à voir, à comprendre, me faisait descendre avec lui dans le mystère de la vie profonde. maintenant, jour par jour, et pour ainsi dire heure par heure, se rétrécissaient et se refermaient les horizons de lumière où j'avais tendu, et la nuit venait, une nuit épaisse, qui non seulement était visible, mais qui était tangible aussi, car je la touchais réellement, cette nuit monstrueuse. Je sentais ses ténèbres se coller à mes cheveux, s'agglutiner à mes doigts, s'enrouler autour de mon corps en anneaux visqueux. Mon cabinet donnait sur une cour, ou plutôt sur un petit jardin, que décoraient deux grands platanes et que limitait un mur tapissé d'un treillage et couronné de lierre. Par-delà ce mur, au fond d'un autre jardin, une façade de maison montait grise et très haute, dardant sur moi cinq rangées de fenêtres, et au troisième étage, quand on la croisait qu'il encadrait comme un vieux tableau, un vieux homme était assis. Il avait une calotte de velours noir, une robe de chambre à carreaux, et jamais il ne bougeait. Tassé sur lui-même, la tête inclinée sur la poitrine, il semblait dormir. De son visage, je ne voyais que des angles de chair jaune et ridée, des trous d'ombre et des mèches de barbe sale, pareilles aux végétations bizarres qui poussent sur les troncs des arbres morts. Parfois, un profil de femme se penchait sur lui, sinistrement, et ce profil avait l'air d'une chouette posée sur l'épaule du vieillard. Je distinguais son bec recourbé et ses yeux ronds, cruels, avides, sanguinaires. Lorsque le soleil entrait dans le jardin, la croisée s'ouvrait, et j'entendais une voix aigre, pointue, colère, qui ne cessait de glapir des reproches. Alors le vieux bonhomme se tassait davantage, sa tête avait un léger mouvement d'oscillation, puis il redevenait immobile, un peu plus enfoui dans les plis de sa robe de chambre, un peu plus écroulé au fond de son fauteuil. Je restais des heures à regarder le malheureux, et j'imaginais des drames terribles, une intimité tragique, une existence noble, gâchée, perdue, broyée par cette femme à la face de chouette. Ce cadavre vivant, je me le représentais beau, jeune et fort. C'était peut-être jadis un artiste, un savant, ou simplement un homme heureux et bon. Et il marchait, la taille haute, les yeux pleins de confiance, il marchait vers la gloire ou vers le bonheur. Un jour, il avait rencontré cette femme chez un ami, et cette femme, elle aussi, avait une voilette parfumée, un petit manchot, une toque de loutre, un sourire céleste, un air d'angélique douceur. Et tout de suite, il l'avait aimé. Et je le suivais pas à pas dans sa passion. Je comptais ses faiblesses, ses lâchetés, ses chutes de plus en plus profondes, jusqu'à l'effondrement dans ce fauteuil de gâteux et de paralytique. Et ce que j'imaginais de lui, c'était ma vie à moi. C'était mes propres sensations, mes terreurs de l'avenir, mes angoisses. Peu à peu, l'hallucination prenait un caractère seulement physique, et c'était moi que je voyais sous cette calotte de velours, dans cette robe de chambre, avec ce corps délabré, cette barbe sale, et Juliette qui se posait sur mon épaule comme un hibou. Juliette. Elle rôdait dans le cabinet, le corps lassé, la figure toute barbouillée d'ennui, laissant échapper des bâillements et des soupirs. Elle ne savait pas quoi inventer pour se distraire. Le plus souvent, près de moi, elle installait une table de jeu et s'absorbait dans les combinaisons d'une patience compliquée. Ou bien elle s'allongeait sur le divan, étalait sur elle une serviette, sur la serviette de menus instruments d'écaille, de microscopiques pots d'engants, et brossait ses ongles avec acharnement, les limait, les obligeait à être plus brillants que de l'agate. Toutes les 5 minutes, elle les examinait, cherchant son image reflétée, comme en un miroir, sur les surfaces polies. « Regarde, mon chéri, son beau pas. Et toi aussi, Spi, regarde les jolis non-ongles à ta maîtresse. » Ce frottement léger de la brosse de peau, cet imperceptible craquement du divan, les réflexions de Juliette, ses conversations avec Spi, suffisaient à mettre en déroute le peu d'idées que je tentais de rassembler. Ma pensée revenait aussitôt aux préoccupations ordinaires, et je rêvais des rêves pénibles, je vivais des vies douloureuses. Juliette, l'aimais-je ? Bien des fois, cette question se dressait devant moi, grosse d'un doute affreux. N'avais-je point été dupe d'un étonnement d'essence ? Ce que j'avais pris pour de l'amour, n'était-ce point l'éphémère et fugitive révélation d'un plaisir non encore goûté ? Juliette, certes, je l'aimais, mais cette Juliette que j'aimais, n'était-ce point celle que j'avais créée, qui était née de mon imagination, sortie de mon cerveau, celle à qui j'avais donné une âme, une flamme de divinité, celle que j'avais pétrie impossiblement avec la chair idéale des anges. Et encore, de n'aimais-je point comme on aime un beau livre, un beau verre, une belle statue, comme la réalisation visible et palpable d'un rêve d'artiste. Mais l'autre Juliette, celle qui était là, ce joli animal inconscient, ce bibelot, ce bout d'étoffe, ce rien. Je la considérais avec attention tandis qu'elle lissait ses ongles. Oh, j'aurais voulu déboîter ce crâne et en sonder le vide, ouvrir ce cœur et en mesurer le néant. Et je me disais, mais quelle existence sera la mienne avec cette femme qui n'a de goût que pour le plaisir, qui n'est heureuse que dans les chiffons, dont chaque désir coûte une fortune, qui malgré son apparence chaste va au vice instinctivement, qui du soir au lendemain, sans un regret, sans un souvenir, a quitté ce misérable Maltaire, et qui me quittera demain peut-être, cette femme qui est la négation vivante de mes inspirations, de mes admirations, qui jamais, jamais n'entrera dans ma vie intellectuelle, cette femme enfin qui déjà pèse sur mon intelligence comme une folie et sur mon cœur comme un remords, et sur moi, sur tout moi, comme un crime. Et j'avais des envies de fuir, de dire à Juliette, « Je sors, mais je serai revenu dans une heure, et de ne pas rentrer dans cette maison où les plafonds n'étaient plus écrasants que des couvercles de cercueil, où l'air m'étouffait, où les choses elles-mêmes semblaient me dire, « Va-t'en !» Eh bien non, je l'aimais, et c'était cette Juliette que j'aimais, non l'autre, qui était allée où vont les chimères. Je l'aimais de tout ce qui faisait ma souffrance, je l'aimais de son inconscient, de ses futilités, de ce que je soupçonnais en elle de perverti. Je l'aimais de ce torturant amour des mères pour leur enfant malade, pour leur enfant bossu. Avez-vous rencontré, par un jour glacé d'hiver, avez-vous rencontré, accroupi dans l'angle d'une porte, un pauvre être dont les lèvres sont gercées, dont les dents claquent, dont la peau tremble sous les guenilles déchirées? Et si vous l'avez rencontré, n'avez-vous pas été envahi par une pitié poignante? Et n'avez-vous pas eu la pensée de le prendre, de le réchauffer contre vous, de lui donner à manger, de couvrir ses membres frissonnants de vêtements chauds? Eh bien, j'aimais Juliette ainsi. Je l'aimais d'une pitié immense. Oh, non, ne riez pas, d'une pitié maternelle, d'une pitié infinie. Est-ce que nous n'allons pas sortir, mon chéri? Oh, ce serait si gentil de faire un tour de bois. Et jetant les yeux sur le papier blanc où je n'avais pas écrit une ligne. C'est tout ça, au vrai, tu ne t'es pas foulé la rate. Et moi qui suis resté pour te faire travailler. Oh, d'abord, je sais que tu n'arriveras jamais à rien. Tu es bien trop mou. Bientôt, tous les soirs et tous les soirs, nous sortîmes. Je ne résistais pas, presque heureux d'échapper au mortel dégoût aux réflexions désespérées que me suggérait notre appartement, à la vision symbolique du vieil homme, à moi-même. Ah, surtout à moi-même. Dans la foule, dans le bruit, dans cette hâte fiévreuse de l'existence de plaisir, j'espérais trouver un oubli, un engourdissement, dompter les révoltes de mon esprit, faire taire le passé dont j'entendais au fond de mon être la voix gémir et pleurer. Et puisque j'étais dans l'impossibilité d'élever Juliette jusqu'à moi, j'allais m'abaisser jusqu'à elle. Les hauteurs sereines où trône le soleil, que j'avais gravées lentement au prix de quels efforts, je les redescendrai d'un coup, d'une chute instantanée, irrémédiable, dussé-je en bas me fracasser la tête contre les pierres ou disparaître dans la boue profonde. Bon, il n'était plus question de m'enfuir. Si par hasard cette idée venait encore traverser les brumes de mon cerveau, si, dans l'égarement de ma volonté, j'apercevais toujours plus lointaine une route de salut où le devoir semblait m'appeler, pour me soustraire à l'idée, pour ne pas m'élancer sur cette route, je m'accrochais à de faux semblants d'honneur. Pouvais-je quitter Juliette, moi qui avais exigé qu'elle quittât ma terre? Moi partie, que deviendrait-elle? Que deviendrait-elle? Mais non, je mentais. Je ne voulais pas la quitter parce que je l'aimais, parce que j'avais pitié d'elle, parce que... Était-ce point moi que j'aimais, de moi que j'avais pitié? Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Aussi ne croyez point que l'abîme où j'ai roulé m'ait surpris brusquement. Ne le croyez pas. Je l'ai vu de loin. J'ai vu son trou noir et béant horriblement. J'ai couru à lui. Je me suis penché sur les bords pour respirer l'odeur infecte de sa fange. Et je me suis dit, c'est là que tombent, que s'engouffrent les destinées perverties, les vies perdues. On n'en remonte jamais, jamais. Et je m'y suis précipité.